Je pense que tout le monde dans la région s'est probablement déjà posé la question au moins une fois. Le centre Georges Vézina, c'est qui Georges Vézina? Surtout pour ceux qui suivent un peu moins le hockey. Et on a un gars de la région d'ailleurs, hein, qui vient de la région, qui a décidé d'écrire un livre sur l'histoire et la vie de Georges Vézina. Ça s'appelle Georges Vézina, l'habitant silencieux. Celui qui l'a écrit, c'est Michael Lalancette. Il est en bout de ligne. Salut Michael!
Salut!
Ça fait quoi? Écoute, je regardais un peu le résumé de ton histoire par rapport à ce livre-là. Ça fait longtemps que tu as commencé à travailler sur l'histoire de Georges Vézina.
Ouais, vraiment, vraiment. Mais tu sais, à l'époque, quand j'ai commencé à lire là-dessus, à m'informer sur les débuts du hockey, puis tout ça, c'est il y a une quinzaine d'années, tu sais, j'avais pas l'idée d'écrire un livre pour ce moment-là. Parce que premièrement, je savais l'ampleur du travail à accomplir avant d'en arriver avec un livre. J'avais pas le temps pour ça. Je sortais de l'école, puis je commençais à travailler. Je voulais investir sur ma carrière. Je voulais me faire connaître et tout ça. Puis, j'avais pas toutes ces heures-là à mettre sur un projet de livre. Puis, de fil en aiguille, ben j'ai continué à lire. J'ai continué à m'intéresser, bien entendu, à l'histoire du Québec, mais aussi à l'histoire du hockey, les débuts dans la région, comment ça a commencé. Puis, à chaque fois que je voyais passer Georges Vézina dans l'histoire du Canadien, parce qu'il a tellement été important au début, je me rendais compte qu'il y avait mille et une contradictions sur lui, puis toutes sortes de mythes, puis ce qu'on lit sur Internet, il y a plein d'affaires que lorsqu'on vérifie judicieusement dans les journaux, puis tout ça, on se rend compte qu'il y a eu des petits coins ronds qui ont été tournés un peu à gauche, pas à droite, puis arrive la pandémie au mois de mars, je tombe en mise à pied à TVA, puis là, je me dis, écoute, comment je m'occupe, moi, là, habituellement, mars, avril, là, c'est le début de ma grosse saison, là.
Ben oui.
Les séries du hockey junior, puis, tu sais, je roule à fond de train, tout ça, les événements, puis je suis sur la route, là, je tombe chez nous, à plus rien avoir à faire, puis je me dis, écoute, il faut que je m'occupe, je vais virer fou, fait que je me dis, écoute, je vais relire tout ce que j'ai récolté comme document au fil des années. Même dans les 10 années que j'ai été à TVA, puis j'ai pas eu le temps de retravailler là-dessus, je relis tout, puis je me lance peut-être en commençant à rédiger quelque chose. On verra vers quoi ça va m'amener. T'sais, en mars, on savait pas c'était quoi la pandémie, puis ça nous amènerait où avec tout ça. Puis écoute, de fil en aiguille, ben les journées passent. Je travaille là-dessus 8 heures, 10 heures par jour, 12 heures par jour. Je lis, je fouille dans les archives nationales, je complète ce que j'ai trouvé. Je commence à écrire pendant 4 mois. Fait que j'ai écrit de fin mars à fin juin. La Bibliothèque nationale à Montréal a réouvert cet été. Fait que j'ai été super chanceux. J'ai pu retourner, compléter ce qui me manquait comme trouvaille, notamment certains journaux anglophones. Puis, écoute, j'ai présenté ça à une maison d'édition, puis une semaine après, j'avais un contrat. C'est complètement fou. T'sais, c'est un projet, je pensais jamais faire ça à 35 ans. Puis là, ben, j'ai le livre entre mes deux mains, puis je suis bien fier de ce projet-là.
Et le livre est vraiment intéressant, puis tu as un peu abordé ce sur quoi je voulais t'amener, parce qu'à l'occasion, dans le livre, on dresse le portrait de Georges Vézina. Après, on a des encadrés qui nous expliquent qu'il y a certaines informations qui sont contradictoires, comme les dates de contrat, les décès, parce que lui, son histoire familiale est quand même bourrée de hauts et de bas, on va le dire. Mais comment tu as réussi à faire le tri là-dedans, à vérifier qu'est-ce qui était vrai? Probablement que tu as tassé des informations que tu t'es dit « je peux jamais aller avec ça publiquement ou dans un livre parce que c'est pas vérifiable. » Comment t'as fait pour trier le vrai du faux là-dedans?
Bien, je te dirais que ça s'est fait sur deux aspects. Premièrement, les articles de journaux m'ont été très utiles parce que moi, je me suis rabattu là-dessus. T'sais, c'est pas parce que c'est écrit dans un article de journal que c'est nécessairement vrai. La plupart du temps, ça a bien beaucoup de chances d'être vrai, surtout bon quand ce sont des sources qui sont crédibles et tout ça. Mais le problème avec les journaux de l'époque, c'est que bon, ils étaient un peu chauvins. Tu sais, des fois, il fallait que je trouve une double vérification puis une troisième source pour avant de décider de reprendre ça dans le bouquin. J'ai pigé aussi dans les actes de notaire. Et ça, c'est une mine d'or, c'est une mine d'informations parce que là-dedans, on a plein de dates. On a des montants d'argent, puis lui a fait beaucoup de transactions parce qu'il était en affaires et tout ça. Alors, j'ai retrouvé son contrat de mariage, j'ai retrouvé plusieurs choses, puis même chose pour le registre des actes civils là, du Québec, où est-ce que j'ai pu retrouver toutes les naissances, toutes les sépultures liées à cette famille-là, parce qu'ils ont perdu plusieurs enfants, mort-nés. Alors, tu sais, c'était là, vraiment soulever toutes les pierres, essayer de trouver toutes les informations que je pouvais en relisant tous les livres qui ont été écrits sur le Canadien, etc., etc., en consultant quelques historiens qui ont malheureusement pouvaient plus souvent qu'autrement, pas vraiment m'aider sur Georges Vézina, mais quand même qui me donnait quelques repères historiques. Puis j'ai complété avec la famille. C'est la famille, ils savaient pas grand-chose parce que Vézina est mort à 39 ans. Oui. Il avait deux jeunes enfants, puis ça a été un traumatisme pour eux. Alors, ils ont pas parlé de ça avec leurs descendants. Donc, les 11 petits-enfants maintenant, ils ont 75, 80, 85 ans. Puis, la beauté de ce projet-là, c'est que je boucle la boucle de l'histoire de la famille parce que là, je leur redonne le livre et là, enfin, ils pourront découvrir la vie et la carrière de leur grand-père.
Mais dans le domaine sportif, parce que là, dans le livre, on comprend qu'à l'époque, au début des années 1900-1910, tout ça, quand il joue pour le Canadien et même avant, on a commencé à parler de lui dans des journaux qui étaient dans l'Ouest canadien, du côté des États-Unis. On a vu qu'il y a eu un impact pour le hockey, même qu'à l'époque, on commençait à avoir des gardiens qui se jetaient par terre. Lui restait debout, il a été reconnu pour ça. Mais pourquoi on ne parle pas plus de lui aujourd'hui? Oui, il y a un trophée qui porte son nom dans la Ligue nationale de hockey, mais pourquoi on n'en parle pas plus? Il n'est pas plus reconnu dans le domaine du hockey du Québec d'aujourd'hui?
Je pense que c'est lié à deux aspects très précis. Premièrement, je l'ai dit tantôt, puis je fais le lien avec ce que j'ai dit tantôt, c'est-à-dire, c'est que, tu sais, il est décédé à 39 ans. S'il était mort à 60, à 65 ans, comme à peu près c'était la moyenne d'âge, la moyenne d'espérance de vie de cette époque-là, ben, il aurait pu raconter sa carrière dans les médias, il aurait pu la raconter à ses enfants, à ses petits-enfants. Tu sais, on aurait eu beaucoup plus de traces. Là, il meurt prématurément à 39 ans, en 1926. C'est à peine quelques semaines après la fin de sa carrière parce qu'il joue son dernier match contre Pittsburgh au premier match de la saison. Puis après la première période, il peut plus continuer parce que la tuberculose l'a vraiment gagné. Puis on le retourne chez lui en lui disant, ben écoute, c'est le repos éternel pour toi. Puis va essayer de guérir ta maladie au grand air et tout ça. Alors le fait que tu sois décédé jeune, ça a pas aidé. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que il a évolué pour le Canadien à une époque où est-ce que les joueurs d'une façon individuelle était pas célébré comme maintenant. Tu sais, si Georges Vézina, avec la carrière qu'il a connue et tout ça, se retirait aujourd'hui donc une fin de carrière avec les Canadiens de Montréal, puis 16 saisons avec l'équipe, puis deux coupes Stanley, ben le Canadien aurait retiré son chandail tout de suite, possiblement avant qu'il décède ou tout de suite après son décès. Là, dans cette époque-là, en 1926, c'est pas dans les mœurs du tout d'honorer les joueurs sur une base individuelle. Tu sais, on parle même pas de retraite de chandail, ça se fait pas. C'est la culture du numéro, la culture de l'honneur des joueurs sur une base individuelle, ça arrive pas avant les années 40 à Montréal. Alors, il est victime un peu de ça, parce que tu le dis, écoute, si 100 ans plus tard, ou près de 100 ans plus tard, après sa mort, la Ligue nationale de hockey, gérée maintenant à New York, tu sais, ils ont encore un bureau à Montréal, mais cette Ligue-là est gérée à New York, s'ils n'ont même pas changé le nom du trophée qui récompense le meilleur gardien, ça veut dire que Georges Vézina a été marquant. Tu sais, c'est un Canadien français. Des trophées au nom de Canadiens français, tu sais, à part Maurice Richard, il n'y en a pas vraiment d'autres. Puis, sans dire sur la contribution de Georges Vézina. Alors, je pense qu'il a été victime un petit peu de son époque, puis la façon que ça a comme tourné pour lui.
Et si on regarde un peu, sans que tu dévoiles tous les détails qu'il y a à l'intérieur du livre, parce qu'on parle énormément du Canadien de Montréal, Georges Vézina a joué pour des équipes ici du côté de Saguenay avant de se joindre au Canadien. Il existe une belle histoire entre les deux, parce qu'à l'époque, le Canadien venait souvent ici dans la région. Il y a plusieurs gars de Chicoutimi, des joueurs qui ont fait le grand saut du côté de Montréal par la suite. Donc, il y a comme une histoire d'amour entre nous et le Canadien de Montréal.
Ah oui, tout à fait. Puis les Vézina ont été au cœur de ça. Premièrement, ils y vont une première fois. J'explique dans le livre un peu le contexte. Georges Vézina est sollicité et courtisé, disons ça comme ça, par le Canadien. Ils ont besoin d'un gardien de but. Ils cherchent un goaler. Puis là, ils apprennent que Québec, le club de hockey Québec, tourne autour du club Chicoutimi. Alors, possiblement qu'ils se disent, bon, on va aller le chercher avant qu'il soit engagé par Québec. Et après ça, après le début de la carrière de Vézina, ben Georges Vézina est vraiment une courroie entre la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean puis le club de hockey canadien. On organise des matchs d'exhibition, on retourne à Chicoutimi. Georges Vézina, il essaie de convaincre certains joueurs du Saguenay d'aller jouer avec le Canadien. Puis même après sa mort, le Canadien est retourné par la suite aller jouer des matchs à Chicoutimi parce qu'il y avait eu des liens étroits qui avaient été tissés entre le club de hockey canadien puis Georges Vézina. Fait que, ça a tellement été un ambassadeur incroyable pour le Saguenay parce que Puis tu le vois là à la lecture du texte, on le voit à quel point le nom de Chicoutimi circule partout aux États-Unis, partout au Canada grâce à lui. Puis tu sais, il n'y a pas eu d'ambassadeur de cette ampleur-là avant plusieurs années dans le monde du sport. Puis ça, ben pour ça, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est sûr qu'elle doit beaucoup à Georges Vézina. Il l'a fait connaître. Puis en plus, il avait une réputation irréprochable. C'était un gars qui était adoré partout. Alors, tu sais, ça a été bon, ça a été vraiment bon pour la région.
Et il y a eu plusieurs surnoms, et ça, je vais laisser les gens le découvrir dans le livre, mais ce gars-là a tellement eu de surnoms de la part des journalistes, de la part de ses coéquipiers, c'est inimaginable. Mais selon toi, est-ce que le Canadien de Montréal devrait retirer son numéro à Georges Vézina? Parce qu'à moins que je me trompe, on n'a jamais retiré son numéro 1 qu'on donnait par défaut à l'époque aux gardiens de but.
Ouais, non, c'est ça. C'est comme je le mentionnais un peu plus tôt. Tu sais, c'est lié au fait qu'on retirait pas les chandails à l'époque. Mais depuis ce temps-là, le Canadien a retiré le chandail numéro 1 de Jacques Plante. Alors, le chandail, il est déjà retiré. Le numéro est déjà retiré. Donc, ça ne prendrait pas grand-chose pour retirer le chandail de Georges Vézina. Ce serait juste du leadership de l'organisation du Canadien de dire, hey, sais-tu quoi, on doit réparer cet oubli. Je dirais pas erreur historique, tu sais, parce que je pense qu'il n'y a pas de mauvaise foi là-dedans. Mais il a été malheureusement oublié. Puis, ça prendrait pas grand-chose de la part du Canadien de dire « On va honorer celui qui a été le premier Québécois à porter le club de hockey canadien au bout de ses bras. » Parce que ça a été long avant qu'on en ait un deuxième. Tu sais, après ça, là, quand on étudie l'histoire du Canadien, on tombe presque à Émile Butch-Bouchard, puis après ça, à Maurice Richard. Donc, Vézina, pendant 30 ans ou presque, il est le seul Québécois francophone à être une mégastar à Montréal. Puis les autres, ben Newsy Lalonde, Aurel Joliat, Harry Morin et compagnie, ce sont des Ontariens. Alors, ce sont des Franco-Ontariens. Puis, tu sais, on les aime beaucoup. Là, c'est pas le point. C'est juste de dire, Vézina, il a vraiment, vraiment été un défricheur pour le hockey québécois.
T'as parlé de Franco-Ontarien, on va se laisser là-dessus, Michael. Aujourd'hui, le Canadien de Montréal qui annonce une grosse nouvelle, Claude Julien qui est congédié. Un gars comme toi qui suit l'activité de la Ligue nationale, on réagit comment à ça ce matin?
Ben moi, je suis pas vraiment surpris. T'sais, écoute, à voir se comporter le Canadien depuis quelques semaines, quelques matchs, mais en presque quelques semaines, avec les débuts qu'ils ont eus, les attentes sont très élevées. Hein. Moi, je pense que c'est une question d'attente. Il s'est passé quelque chose cet été avec le Canadien. Les attentes ont complètement été changées avec les performances d'équipe. La barre est très haute. Marc Bergevin s'est commis. T'sais, il a dépensé énormément d'argent. Puis là, on n'est plus à l'ère de la patience. Là, on n'est plus à l'ère des tests. On n'est plus. Le Canadien est passé en deuxième vitesse. Puis ça a mis la barre très élevée. Puis, tu sais, si le Canadien avait perdu ces matchs-là en s'étant bien battu, en ayant l'impression d'une équipe qui est hargneuse avec du caractère et tout ça, je pense que la décision n'aurait pas été prise. Là, ça semblait être une équipe qui avait perdu ses repères, qui semblait un peu sans âme. On revenait à des. Au lieu de des victoires de 5-4, on revenait à des défaites de 3-2, de 2-1. Puis je pense que ça a vraiment pas plu au deuxième étage du Canadien. Parce que les attentes sont tout simplement différentes versus ce qu'on a connu depuis quelques années à Montréal. Alors, j'ai hâte de voir ce qui va arriver de la carrière de Claude Julien. T'sais, il y a eu un parcours irréprochable. Mais c'est sûr que là. On vient de voir ça va être quoi la suite pour Montréal. T'sais. Moi, j'aime beaucoup Dominique Ducharme. Je suis heureux de le voir avoir enfin sa chance comme entraîneur-chef.
Et tu le connais très bien parce que tu as suivi l'activité de la LHJMQ pendant tellement d'années. Donc, tu l'as connu de très près, Dominique Ducharme.
Ouais, vraiment. T'sais, je l'ai suivi de près durant la conquête de la Coupe Memorial, durant la conquête de la médaille d'or canadienne junior. Je l'ai suivi, bien évidemment, à Halifax, à Drummondville. Chez le Canadien un petit peu. Puis tu sais, je sais que ça fait des. Écoute, c'est une vie à consacrer. Là. Je parlais de moi de ma carrière dans les médias à couvrir le hockey junior, mais lui, là, c'est une vie à consacrer au hockey, puis il attendait cette opportunité-là. Alors là, il a sa chance. C'est à lui de la saisir, de montrer ce dont il est capable, de montrer sa couleur, parce que c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, c'est pas un volubile. Mais il y a l'occasion de parler avec les performances de l'équipe parce que, je l'ai dit, c'est une question d'attente. Alors, s'il répond aux attentes, moi, je pense qu'il y a des chances de garder les commandes de l'équipe dans les prochaines années. Donc, je lui souhaite vraiment bonne chance parce que c'est une des bonnes têtes de hockey qui a été développée au Québec dans les dernières années.
Ben, Michael, un gros merci de ta générosité. J'invite les gens à se procurer parce que c'est disponible depuis aujourd'hui, à moins que je me trompe, ton nouveau livre, Georges Vézina, L'habitant silencieux, qui était justement l'un de ses surnoms dont je parlais tantôt. Il y en a tellement eu, mais L'habitant silencieux, ça a été un qui a vraiment là, marqué sa carrière. Michael Lalancette, un gros merci d'avoir pris le temps.
Merci de l'invitation.